Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du vendredi 11 décembre 2015. Au sommaire ce soir.
Trois camps attaqués, 12 assaillants tués. La tension sur fond de violence armée monte au Burundi.
Un nouvel attentat dans l'extrême nord du Cameroun attribué à Boko Haram. Bilan, au moins 7 morts.
Droits de l'homme en Centrafrique, la MINUSCA fait l'état des lieux.
Le document qui contient 26 pages en français fournit un aperçu de quelques violations des droits humains depuis le 15 septembre 2014 jusqu'au 31 mai 2015.
Reportage à suivre de notre correspondant à Bangui.
La COP21 joue les prolongations. Le ministre français des Affaires étrangères annonce un projet d'accord final pour demain matin.
Au Burkina Faso, 3 inculpés dans l'affaire Norbert Zongo.
Les commanditaires, sans citer personne, sont de l'ancien régime, c'est-à-dire le régime de Blaise Compaoré. Ces gens étaient au cœur du système pendant longtemps.
Le journaliste a été assassiné il y a 17 ans. Par ailleurs, le gouvernement de transition honore aujourd'hui les acteurs de la société civile burkinabé.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Nous ouvrons au Burundi où 3 camps militaires ont été attaqués la nuit dernière. Au moins 12 assaillants ont été tués au cours des affrontements qui s'en sont suivis. Les plus intenses au Burundi depuis la tentative de coup d'état militaire déjouée en mai dernier. Eddie Isango.
Des échanges de tirs sporadiques se poursuivaient en milieu d'après-midi dans divers quartiers de Bujumbura, quadrillés par l'armée, où, selon les habitants, les opérations de ratissage avaient lieu. 21 assaillants ont été capturés, en plus d'au moins 12 qui ont été tués, et l'armée a enregistré 5 blessés, a indiqué les porte-parole de l'armée, le colonel Gaspard Baratouza. Un haut gradé de l'armée a lui affirmé à l'AFP que les combats avaient occasionné des pertes des deux côtés. Lourdement armés, les assaillants ont simultanément attaqué à l'aube les camps de Gangara, situés à au moins 1 km de l'Assemblée nationale dans le nord de Bujumbura, et l'école des officiers burundais dans les quartiers de Musaga. Les camps de la 120e brigade à Mujejuru, à une 40aine de kilomètres à l'est de la capitale, a également été attaqué, selon le colonel Baratouza, pour qui les assaillants avaient l'intention de pénétrer dans les camps pour se procurer des armes et des munitions. L'envoyé spécial américain pour les Grands Lacs, Thomas Perriello, a appelé à un cessez-le-feu urgent et au retour au calme, alors que les ambassadeurs des États-Unis, de Belgique, de France et des Pays-Bas ainsi que l'ONU ont demandé vendredi à leurs ressortissants et employés à ne pas quitter leur domicile.
Au Cameroun, au moins 7 civils ont été tués ce matin dans un attentat suicide à Kolofata, localité de l'extrême nord du pays où le groupe islamiste nigérian Boko Haram reste très actif. John Lyndon.
Selon une source sécuritaire locale interrogée par l'AFP, un kamikaze est arrivé sur un lieu de vente de beignets et a actionné sa charge. 8 personnes ont été tuées sur place, dont le kamikaze. C'est la deuxième fois en quelques mois que Kolofata est visée par un attentat mené par un kamikaze. Le 13 septembre, au moins 7 personnes y avaient péri dans un double attentat suicide. L'attentat de Kolofata survient alors que l'armée camerounaise mène depuis fin novembre, dans cette zone et dans d'autres localités frontalières, des opérations de ratissage pour affaiblir les djihadistes nigérians qui restent très actifs entre le nord-est du Nigeria et l'extrême nord du Cameroun. Kolofata est située non loin de Kerawa, une ville camerounaise frontalière du Nigeria qui avait enregistré le 3 septembre l'un des attentats les plus meurtriers perpétré sur le sol camerounais. L'attaque avait fait au moins 20 morts.
Nouveau raid attribué à Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Cette fois, 14 personnes ont été tuées à Kamuya. Certaines ont été décapitées et leurs têtes placées sur leur torse, a témoigné un habitant cité par l'AFP. Le village a été entièrement rasé, affirme-t-il.
En République centrafricaine, alors que la campagne référendaire prend fin aujourd'hui à minuit, la MINUSCA a rendu public ce vendredi un dernier rapport sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Le point avec Freeman Sipila.
Le document qui contient 26 pages en français fournit un aperçu de quelques violations des droits humains depuis le 15 septembre 2014, date du transfert d'autorité de la MISCA à la MINUSCA jusqu'au 31 mai 2015. Durant cette période, au moins 775 cas de violations des droits de l'homme affectant au moins 785 victimes ont été documentés. Ces violations des droits humains ont été commises par des milices armées, des agents du gouvernement ainsi que les forces internationales. Moussa Gassama, directeur des droits de l'homme à la MINUSCA.
Il y a des arbitraires, de tueries, de morts. Il y a des détentions illégales, arbitraire. Il y a aussi ce qu'on appelle les mauvais traitements, même disons la torture des victimes et manque de respect de la dignité de la personne. Et aussi les violations contre les mêmes les personnes déplacées. Donc c'est ça des violations qu'on a citées dans le rapport.
Les enquêteurs demandent par ailleurs aux autorités centrafricaines de mettre la priorité sur la lutte contre l'impunité et de continuer à travailler urgemment pour la mise en place effective du tribunal pénal spécial. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Trois inculpés dans l'affaire Norbert Zongo au Burkina Faso, 17 ans après l'assassinat du journaliste. Le caporal Wampas Bana Koulma, le sergent Banagulo Yaro et le soldat Christophe Kombasere, tous de l'ancien régiment de la sécurité présidentielle, ont été inculpés par la justice burkinabé. Pour le fils de Norbert Zongo, Guy Zongo, joint par Arzuma Compaoré, les Burkinabés attendent toujours de la justice qu'elle fasse la lumière sur la mort de son père le 13 décembre 1998.
Cette lumière que le peuple réclame depuis maintenant 17 ans, il y a toujours la même volonté au niveau du peuple de savoir ce qui s'est passé. Maintenant, au niveau des nouvelles autorités, je pense qu'ils ont tout intérêt à faire la lumière sur ce qui s'est passé parce que le peuple quand même reste vigilant et tôt ou tard, la lumière se fera par rapport à cette affaire Norvaison. Les commanditaires, sans citer personne, sont de l'ancien régime, c'est-à-dire le régime de Blaise Compaoré. Ces gens étaient au cœur du système pendant longtemps, depuis la mort jusqu'au 30 au 31 octobre 2014. Maintenant, il faut reconnaître aussi que c'est un dossier un peu difficile parce que la majeure partie de ceux qui étaient sur les lieux sont quand même décédés avec Marcel Kafando, Hermon Kouame et autres. Donc, reconnaissez que c'est un dossier pas du tout facile. Les gens ont travaillé à éliminer tous les acteurs du dossier. Il reste seulement les commanditaires.
Guy Zongo, fils de Norbert Zongo.
Dans le nord du Togo, des affrontements entre policiers et manifestants lors de rassemblements organisés en novembre ont fait 8 morts et 117 blessés. Tel est le bilan publié par Amnesty International. Des jeunes de la ville de Mango s'opposaient à la réhabilitation d'un complexe d'air naturel protégé qui menacerait, selon eux, leurs habitations et les champs. Leurs manifestations n'étaient pas autorisées.
Lutte contre l'esclavage en Mauritanie, un décret créant 3 cours criminel spécialisé en la matière a été adopté. Ces cours siégeront à Nouakchott, Nima et Nouadhibou, chacune ayant compétence pour les régions voisines.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Tunisie a rouvert sa frontière terrestre avec la Libye, qu'elle avait fermée après l'attentat suicide du 24 novembre à Tunis, revendiqué par le groupe État islamique. L'annonce rapportée par l'AFP a été faite aujourd'hui par le chargé de communication au ministère tunisien de l'Intérieur. L'état d'urgence a par ailleurs été réinstauré dès le 24 novembre sur tout le territoire pour au moins 30 jours, tandis qu'un couvre-feu reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre dans le Grand Tunis de minuit à 5 heures du matin.
Conférence de l'ONU sur le climat. Le président de la COP21, Laurent Fabius, a annoncé ce vendredi qu'il présenterait demain matin un nouveau projet d'accord. Nathalie Barge.
Aux côtés du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le ministre français des Affaires étrangères a déclaré à la presse qu'à l'issue des consultations, il sera en mesure, samedi matin à 9h, de présenter à l'ensemble des parties un texte dont il est certain qu'il sera approuvé et qui, selon lui, sera un grand pas en avant pour l'ensemble de l'humanité. Nous sommes presque au bout du chemin, je suis optimiste, a assuré Laurent Fabius. Le chef de la diplomatie française avait initialement affirmé son intention de conclure l'accord de Paris jeudi pour une adoption formelle vendredi soir. Mais la dernière version du projet d'accord présenté hier soir a fait l'objet d'intenses négociations toute la nuit au cours de laquelle plusieurs pays ont campé sur leur position, rapporte l'AFP.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé ce matin que des questions n'étaient pas encore résolues dans l'accord de principe conclu à la conférence de l'opposition syrienne à Riyad. Cependant, M. Kerry s'est dit confiant, aucune solution sera trouvée. Il n'a pas fourni de précision. Le chef de la diplomatie américaine doit se rendre à Moscou la semaine prochaine pour des entretiens avec le président Vladimir Poutine et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Ils parleront non seulement de la crise en Syrie et de la lutte contre Daesh, mais aussi de la situation en Ukraine.
Les rebelles chiites houthis ont remis à l'ONU la liste de la délégation qui les représentera lors des pourparlers prévus la semaine prochaine en Suisse pour tenter de mettre un terme au conflit au Yémen. Selon l'AFP, outre cette délégation, participeront au pourparlers des représentants du gouvernement du président Abd Rabo Mansour Hadi et des responsables du Congrès général du peuple, loyal à l'ex-président yéménite Abdallah Saleh.
Un Palestinien a été tué aujourd'hui lors d'affrontements avec des soldats israéliens à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée. C'est ce qu'a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Le Palestinien âgé de 22 ans a été tué par des tirs à balles réelles lors de raids à Hébron, a indiqué le ministère dans un communiqué.
Et un jury dans l'Oklahoma a rendu un verdict de culpabilité contre Daniel Hutzklaw, un policier accusé de viol et d'autres abus sexuels sur des femmes qui étaient en contravention avec la loi. On y reviendra.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, a encore plus déprimé un marché déjà morose. Les cours du pétrole sont plombés depuis une semaine par la décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, de ne plus se fixer d'objectifs chiffrés de production, malgré la surabondance d'or noir dans le monde. Et le rapport de l'AIE prévoit que l'excès d'offres durerait encore l'an prochain. Le géant pétrolier Total a annoncé aujourd'hui vendredi la mise en production du projet d'offshore profond Moho phase 1B, situé en République du Congo à 75 km au large de Pointe-Noire. Le projet dispose d'une capacité de production de 40 000 barils équivalent pétrole par jour et intervient après le lancement de la phase 1A du projet Dalia en Angola et à celui du champ Lianzi dans les eaux profondes du Congo et de l'Angola. Le Togo investit dans le phosphate et en attend beaucoup. Après un investissement de 6 milliards de francs CFA en 2014, une production de 1,11 million de tonnes et un chiffre d'affaires en hausse à 57,75 milliards de francs CFA, la Société nouvelle des phosphates du Togo, la SNPT, table sur une production de 1,5 million de tonnes pour l'année 2015. L'investissement pour la construction de l'usine de production d'acide phosphorique et d'engrais est estimé à 1,4 milliard de dollars.
La Minute Éco, merci Anastasie.
En studio pour les sports, Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonsoir Gabi.
Football, FIFA, le tribunal arbitral du sport de Lausanne n'a pas levé la suspension contre Platini.
Le triple ballon d'or français n'a pas eu gain de cause. Sa suspension jusqu'au 5 janvier 2016 reste en vigueur, Gabi. Ainsi en a décidé le TESA.
Mais la décision ne s'arrête pas là.
Exactement. Michel Platini est apparu souriant après la décision. Le tribunal a interdit à la FIFA de prolonger de 45 jours la suspension. Donc, une partie des demandes du président de l'UEFA a été satisfaite. Et Michel Platini restait confiant sur le fond de l'affaire et sur la solidité de son dossier. Le 18 décembre... Platini sera entendu par la justice interne de la FIFA qui a requis sa radiation à vie du monde du football. Le feuilleton continue, Gabi.
L'Euro 2016, le tirage au sort demain samedi à Paris.
On connaîtra les 6 groupes du premier tour. Pour la première fois, 24 équipes vont participer dans cette compétition organisée en France du 10 juin au 10 juillet. Les Pays-Bas seront les grands absents. Le président de l'UEFA, Michel Platini, sera bien entendu absent. Mais Vicente Rizarazu et Ruud Gullit seront les deux maîtres de cérémonie qui affrontera l'Allemagne championne du monde et l'Espagne tenante du titre. La réponse demain à 17h GMT.
Enfin, le Barça vise le sommet financièrement.
Les Catalans veulent devenir le club le plus puissant financièrement au monde avec un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros d'ici 6 ans. Et cette année, le Barça atteindra 600 millions d'euros, le Real Madrid 549 millions d'euros et Manchester United 518 millions d'euros étaient les clubs au plus gros chiffre d'affaires en 2014.
Alors quand j'ai dit enfin, c'est seulement pour le foot, parce que nous avons quelques résultats en basket.
Oui, je vous donne les deux premiers dans chaque catégorie. Conférence Est Cleveland, c'est le premier avec 66 points. 7, 21 victoires. 21 victoires. Et Charlotte, 61.9. Avec la conférence Est, c'est Golden State, Gabi, à 23 victoires d'affilée. Et San Antonio est en sort.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Tchad.
Oui, le Tchad, pour parler du retour de plusieurs milliers de soldats tchadiens déployés dans la lutte contre la secte islamiste nigériane Boko Haram. Deux mois après le retour de leurs frères d'armes, les éléments des Fatine, les forces armées tchadiennes en intervention au Nigeria et au Niger, regagnent donc le bercail aujourd'hui. Les tchadiens, dans leur ensemble, ont réservé un accueil triomphal à ces éléments qui ont combattu Boko Haram aux côtés de leurs frères d'armes nigérians et nigériens. Cérémonie d'accueil présidée par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. De N'Djamena, la correspondance d'André Kodmanjingar.
Il est 9h, heure de N'Djamena. Idriss Déby Itno, président de la République, arrive à la place de la Nation. Vêtu d'un grand boubou de couleur bleu ciel avec sa traditionnelle canne à la main, il soulève les deux bras en signe de victoire. 9h05, il dépose les fleurs au monument des morts. Rendant hommage aux Fatine, forces armées tchadiennes en intervention au Nigeria et au Niger, tombées en martyrs sur le champ de bataille, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale et des anciens combattants, Benindo Tatola, a souligné que cette mission est un fait historique qui a permis non seulement d'anéantir la force de l'ennemi commun de la sous-région, mais elle a permis également de renforcer les coopérations de défense avec les pays voisins du Tchad. Toutefois, il conseille la vigilance.
À toutes les forces de défense et de sécurité, je voudrais dire ceci. Nous avons la ferme conviction que nous pouvons continuer à compter sur vous eu égard à l'environnement sécuritaire, car les forces du mal continuent toujours à nous imposer un climat d'insécurité et se manifestent dans la forme la plus abjecte et plus insidieuse, donc plus meurtrière. Il s'agit des kamikazes qui sèment la désolation au sein des paisibles citoyens. C'est pourquoi, encore une fois de plus, la vigilance doit être de mise et à tous les niveaux.
Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Sila Bakari, le retour triomphal de Fatine est un engagement assumé au service de l'Afrique. Car, dit-il, le déploiement de cette force au Nigeria et au Niger a permis d'abréger la menace terroriste et de redonner espoir et sourire à des millions de populations de ces pays voisins.
Le retour triomphal de Fatine sonne comme l'espoir. Car la secte Boko Haram n'est plus que l'ombre d'elle-même. Beaucoup ne savent pas pourquoi cette secte a changé d'appellation pour devenir État islamique en Afrique de l'Ouest. C'est bien évidemment le signe patent que cette secte est écrasée. Elle est tous à bois et réduite aux attentats suicides.
Rendant lui aussi hommage à ses soldats, le président tchadien Idriss Déby Itno a distingué 11 responsables des Fatine. 5 sont élevés au rang de l'ordre national avec étoile d'or. 3 sont cités dans la croix des mérites militaires dans l'ordre de l'armée avec palme d'or. 2 soldats de deuxième classe et 1 gendarme de formation sont cités dans l'ordre de régiment avec étoile d'argent. André Kodmadingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Et toujours concernant la lutte contre la secte Boko Haram, les autorités nigériennes pourraient bientôt remettre à la police du Nigeria des membres présumés de l'organisation djihadiste. Ils seraient détenus depuis février, période à laquelle Boko Haram a commencé à attaquer le Niger. De Niamey, Abdulrazak Idrissa nous en dit plus.
Aucune source officielle nigérienne ne confirme encore l'information. De centaines de prisonniers nigériens, membres présumés de la secte Boko Haram, pourraient bientôt être remis aux autorités policières du Nigeria. Une source officielle nigérienne, contactée par VOA Afrique et qui a requis l'anonymat, avance le chiffre de 6 à 700 le nombre de détenus nigériens gardés dans différentes prisons du Niger depuis les premières attaques de la secte Boko Haram en février 2015. Si cette remise qui devait se faire entre les services de justice du Niger et la police nigériane se matérialise, elle ne sera tout de même pas la première, même si auparavant c'était des expulsions massives de réfugiés, comme ce fut le cas en mai 2015 où de milliers de réfugiés nigériens ont été conduits jusqu'à la ville de Gaïdam, à la frontière entre les deux pays. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre, le jour de la fête nationale de l'indépendance du Burkina Faso. L'occasion pour le gouvernement de la transition de décorer les méritants qui ont rendu service à la nation. Environ 1000 personnes ont ainsi été distinguées, dont plus de 800 au sein du palais présidentiel. Fait notable, les leaders de la société civile qui ont contribué de façon décisive à la restauration de la démocratie au pays des hommes intègres sont récipiendaires. De Ouagadougou, une correspondance d'Issa Napon.
Les récipiendaires ont fièrement arboré leur distinction honorifique qui marque la reconnaissance de la nation à l'ensemble de leur dévouement pour le bien-être du pays. Au milieu de la foule, il n'a échappé à personne la présence de certains leaders politiques et de la société civile qui n'ont jamais été en odeur de sainteté avec l'ancien régime de Blaise Compaoré. Parmi eux, Maître Benoumoudé Stanislas Sankara, candidat malheureux à la récente élection présidentielle, il a été élevé au rang de chevalier de l'ordre national.
De mon point de vue, c'est la preuve que tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre lutté pour que notre pays recouvre sa dignité, recouvre sa liberté, ont eu ce mérite-là, ses fils et filles, dont le combat aujourd'hui n'est pas tombé dans l'oubli.
Visible de par son physique imposant et de par sa stature de vedette musicale, Serge Bambara alias Moké, un leader du mouvement Le Ballet Citoyen qui avait déjà refusé une première décoration de par le passé, là, c'est cette fois-ci accepté. Et pourquoi?
Parce que ça vient rappeler, si besoin était, que notre combat quand même est suivi, qu'il est soutenu et que finalement on nous reconnaît quand même quelque part une part active dans le changement. Parce que nous n'avons eu de cesse, et c'est surtout le plus important, de dénoncer les situations injustes. En même temps, c'est une invite à rester digne de mériter cet honneur-là, à rester intègre.
Pour Marcel Tankone du mouvement M21, le peuple est au début et à la fin de cette distinction qu'il reçoit.
Nous sommes seulement que des représentants du peuple, parce que sans le peuple, nous ne serions pas là. Je rends grâce aussi à Dieu de nous avoir accompagnés dans cette lutte où nous avons perdu des amis directs pendant l'insurrection et le coup d'État. Je dédie cette décoration à tout le peuple héroïque du Burkina Faso.
Qu'il soit fait commandeur, grand officier ou grand croix de l'ordre national, comme l'empereur des Mossé, le Mouranaba Bangogo, ou encore chevalier comme ces veillants combattants de la démocratie que furent certains leaders politiques et des organisations de la société civile, dans les moments graves que le Burkina Faso a traversé, ils ont vécu la même émotion que les blessés de l'insurrection et des putsch manqués, aussi décorés pour les services rendus pour la restauration de la démocratie. Des moments de reconnaissance de la nation qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom et qui voient un président de la transition, Michel Kafando, baisser peu à peu les rideaux de son passage à la tête du pays des hommes intègres dans un moment aussi crucial de son histoire. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Et Guinée-Bissau, les trois syndicats de la santé publique ont suspendu leur grève de 10 jours, décrétée il y a une semaine. Ils exigeaient entre autres le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. Nouaman Kali fait le point.
Après plusieurs heures de négociations, les trois syndicats de la santé ont suspendu ce jour la grève de 10 jours décrétée il y a de cela une semaine. D'après Garcia Batikan, porte-parole de la classe, le gouvernement a promis de résoudre tous les points revendicatifs. Nous avons conclu de suspendre la grève parce qu'on est arrivé à la... On doit suspendre la grève suite à l'accord survenu avec le gouvernement dans plusieurs domaines. Nous sommes d'accord parce que nous sommes arrivés à un accord total avec le gouvernement. Et je pense que dès demain, tout le monde doit aller au travail. Nous sommes arrivés à la fin de la grève. Tous les problèmes de revendication qui sont dans le cahier. Par ailleurs, Madame le ministre bissau-guinéen de la Santé, Kadi Sédi, a souligné les principaux points d'accord durant la négociation avec la commission négociable des trois syndicats et a remercié celle-ci de son patriotisme, sa compréhension de lever le mot d'ordre. On rappelle que certains patients avaient commencé d'abandonner le principal centre hospitalier de la capitale Bissau. Nouaman Kali Bissau, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, un policier blanc accusé de viol en série a été reconnu coupable dans l'Oklahoma par un jury exclusivement blanc. La particularité de ce cas réside dans le fait que le policier, Daniel Holtzclaw, ciblait les femmes noires des quartiers pauvres qu'il n'hésitait pas à intimider en les menaçant de représailles en se servant de son uniforme et de son badge. Il a fallu le courage d'une grand-mère de 50 ans pour finalement mettre un terme à ses abus de pouvoir. Pour une analyse, Idrissa Seloudia a contacté Marc Elias, ancien chef de la police de North Miami en Floride.
Étant un chef de police qui est rejeté, c'est vraiment dégueulasse. Il n'y a vraiment pas de qualificatif pour expliquer ce qui s'est passé. Lorsqu'on prend un policier qui a été à l'académie, qui comprend les lois, qui devait être là pour protéger le peuple, les civils, commettre un crime pareil, c'est difficile à comprendre. Un policier qui connaît les lois ne devait pas faire une chose pareille. Donc, lorsqu'on lui a trouvé coupable, c'est tout à fait naturel. Je ne regarde pas le noir et le blanc. Ce sont les lois. Et les lois ont parlé.
On a vu beaucoup de cas où la police était sur la sellette. On l'a vu avec pas mal de jeunes noirs qui ont été tués. On voit aussi un policier qui s'en prend aux personnes les plus vulnérables. Comment vous expliquez ça?
C'est difficile à expliquer. Mais en même, laisse-moi dire aux auditeurs quelque chose. Lorsqu'on travaille pour la police, chef de la police doit mettre certaines structures en place. Si, par exemple, que vous avez une ville de 30 km et vous avez 10 policiers qui travaillent, chaque policier devait être responsable pour 3 km. En même, le chef de la police doit être au courant de tout ce qui se passe durant la journée. Moi, par exemple, chaque mois, je rencontre avec les différentes sections de la communauté. Ils me disent, bon chef, vous faites du bon travail, voici ce qui est arrivé. Mais si le chef de la police, son staff exécutif, ne sort pas, ne rencontre pas, ne parle pas, il n'y a pas de riche ou pauvre. Ce sont les gens qui habitent dans la communauté. Et le policier doit refléter la communauté. Donc, on n'a pas de, en anglais, check and balance. C'est-à-dire, le chef de la police doit savoir ce que ce policier chaque jour.
Comment est-ce que le chef de police aurait pu se rendre compte de ce qu'il faisait comme ça? Parce qu'il avait bien préparé...
Non, écoute, ça c'est difficile dans un, mais dans un autre. Si, je vais vous donner un exemple. Je suis au courant chaque jour ce que tous mes policiers font. Par exemple, s'ils travaillent pendant 10 heures de temps, il y a un papier, on appelle ça « roll call », où le policier écrit chaque jour ce qu'il fait. Donc, le sergent doit regarder pour voir, OK, qu'est-ce que vous avez fait tel jour. Donc, le policier lui-même, s'il sort en dehors de la section où il est responsable, le sergent ou le commandant doit aller parler aux gens. C'est ce qu'on appelle un service communautaire.
Marc Elias est un ancien chef de police à North Miami, en Floride.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin. À la console, Sidrak Franklin. Présentation chez Robin Dorsil et Morgane Guériec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Le monde aujourd'hui.
diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.